L'affaire Renault, outre qu'elle mérite bien entendu une mise au point historique, a l'avantage de montrer comment les choses se préparent lentement. Au fond, est une véritable leçon d'histoire ou de fabrication de l'histoire, parce qu'elle a l'avantage de montrer comment quelque chose qui éclate à un moment est le fruit d'un long mûrissement, resté dans l'ombre pendant parfois des années. Je voudrais, à cet égard, montrer ce qui s'est passé avant que ne surgisse la campagne extrêmement active, unilatérale, des héritiers Renault, des consorts Renault, comme disait la cour d'appel de Limoges, puisque les 7 petits-enfants de Renault qui ont attaqué en 2009 le centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane pour avoir osé afficher une photographie qui, il faut le dire, circule aujourd'hui sur tous les médias électroniques et écrits, je m'en réjouis fort. Donc, pour avoir affiché cette photographie aujourd'hui très connue de Louis Renault près de Göring et de Hitler au salon de l'automobile de Berlin, bon, avec une petite faute de chronologie, mais qui n'avait pas beaucoup d'importance. Ça n'était pas en 1938, c'était en 1939, et la faute était d'autant plus vénielle qu'en 1938, Renault était également au salon de l'automobile de Berlin auprès d'Hitler. Donc, pour avoir affiché cette photo comme représentative de ce que le centre d'histoire le centre de la mémoire d'Oradour appelle la collaboration industrielle, eh bien, le centre de mémoire d'Oradour-sur-Glane s'est vu puni sur demande des héritiers Renault qui considéraient qu'il y avait là un véritable outrage à la mémoire honorable de leur grand-père. Alors ça se passait en 2009, personne n'en savait rien, moi pas plus que les autres qui m'occupaient beaucoup de collaboration industrielle et d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement on commence à connaître cette histoire depuis janvier 2011, dans des conditions sur lesquelles je dirai quelques mots. Je voudrais d'abord dire que avant que l'affaire ne surgisse, et ne surgisse pour les auditeurs ou les téléspectateurs de façon très unilatérale, puisque finalement depuis janvier on ne voit ou on entend sur les ondes que les consorts Renault, et en particulier deux d'entre eux, une femme chaleureuse, comme disait le dossier Monde Magazine du 8 janvier 2011, une femme chaleureuse qui se battait pour la réhabilitation de son grand-père, dont la calomnie ou à propos duquel la calomnie sans cesse déversée avait gâché son enfance, la contraignant à une situation insupportable, car il est insupportable d'être considéré comme la petite fille d'un collabo. Et puis un deuxième qu'on voit et qu'on entend partout, c'est-à-dire son mari, historien, Laurent Dingli, historien, moderniste, spécialiste de Colbert, puis d'ailleurs de Robespierre, puisque la mode est à la dictature, à la dénonciation de la dictature totalitaire et stalinienne à peu près depuis l'époque préhistorique. Et donc lui, il avait fait une thèse sur Colbert, il avait fait un livre, comme l'a dit mon collègue et ami moderniste masorique, une espèce de biographie paranoïde de Robespierre comparé à Hitler. Tiens, c'est curieux, là il n'a pas comparé à Staline, enfin
oui,
bref, il était mari de la dame et il avait fait une biographie en 2000, donc il y a 11 ans, près de 12 ans, une biographie absolument hagiographique, qui faisait suite à une biographie hagiographique un tout petit peu plus nuancé, je vais m'expliquer, d'un collègue qui s'appelait Emmanuel Chadeau, feu Emmanuel Chadeau, puisque malheureusement ce jeune historien est décédé prématurément. Et Emmanuel Chadeau avait donc fait une biographie de Louis Renault qui se partageait, je dirais, entre deux hagiographies. La géographie de Louis Renault d'un côté, ça c'était le thème théorique de la biographie, et puis la géographie, même pas du tout nuancée, du second de Renault, François Le Hideux. François Le Hideux, devenu en 1930 administrateur délégué de la Société Anonyme des Usines Renault, la SOR, devenu chargé spécialement des questions sociales, c'est assez amusant, on est au cœur des chroniques syndicales, et qui est un personnage d'une importance considérable dans notre histoire, puisqu'aussi bien il a été une des personnalités les plus éminentes du régime de Vichy. Depuis le début, il a occupé des fonctions politiques décisives avec rang de ministre pratiquement depuis le début, puisqu'il a d'abord été, on appréciera la continuité des dénominations chargé du règlement de la question du chômage. Il a été, il faut le dire tout de suite d'ailleurs, il a été le directeur responsable du comité d'organisation de l'automobile, c'est-à-dire de la structure par laquelle les grands dirigeants de la banque Worms, c'est en particulier leur directeur général Jacques Barnaud, ont véritablement mis l'économie française au service de la concentration extrême du capital, d'une part, au service sur le court terme des intérêts du Reich, d'autre part, puisque ces comités d'organisation, créés par décret du 16 août 1940, théoriquement signés par un certain René Belin, syndicaliste qui avait préféré syndicaliste CGT et second de Jouot, secrétaire général de la CGT, syndicaliste qui avait préféré les ors promis par le patronat depuis 1934 à la rude vie de labeur d'un militant syndical dévoué. Donc ce René Belin, devenu secrétaire d'État, ministre du Travail, dès le premier gouvernement de Vichy, comme disait Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich, l'ambassadeur à Paris du Reich, qui avait précédé son ambassade par une période continue de pourriture de la presse française, de pourriture au sens propre, de pourriture par l'argent de la grande presse française de 1933 à 1939, comme disait Otto Abetz de Belin, on l'avait collé là parce qu'il fallait faire croire à la population française que cette population française était désormais représentée par un syndicaliste. En réalité, c'était son chef de cabinet qui faisait tout et c'était Barnaud. Et Barnaud avait donc créé ces comités d'organisation dont j'ai fait l'étude. De toute façon, les auditeurs peuvent vérifier tout ça. Il y a la liste de mes travaux sur mon site et il y a même certains des travaux. Il est même très probable que mon article, ma communication à un colloque sur les comités d'organisation figure sur mon site et sinon je l'y mettrai. Et donc, ce comité d'organisation, il faut le dire, qui est la mesure phare de Vichy sur le plan économique, on peut retenir essentiellement deux mesures. Celle-là et une autre également signée par Barnaud. L'autre, c'est la création de l'Office central de répartition des matières premières, l'OCRPI, qui a permis à l'Allemagne de vider la France de ses ressources, puisque, comprenons-nous bien, le comité d'organisation gérant l'ensemble des industries, l'ensemble des branches, il y avait quelques dizaines de comités d'organisation, avait un contact permanent avec l'Office central de répartition des matières premières, de sorte que le grand capital dirigeant directement les comités d'organisation pouvait affecter la totalité des matières premières françaises aux besoins de l'économie de guerre du Reich. ça fait partie de l'histoire que les Français ne connaissent pas ou ne connaissent plus ou qu'on leur interdit de connaître, mais c'est la réalité. Eh bien, le hideux, le second de Renault, a été le premier, le bénéficiaire du premier comité d'organisation créé, comité d'organisation de l'industrie de l'automobile et du cycle, le 30 septembre 1940, je dis bien 1940, il faut savoir que la constitution des comités d'organisation s'est étendue jusque et y compris dans l'année 1941. Et il a été le premier nommé, le jour même, directeur responsable. Et il a été nommé, en outre, alors ça il l'a été jusqu'au 25 août 1944, date de son arrestation par les autorités du gouvernement provisoire. Et entre-temps, il avait ses fonctions de responsable au chômage, puis de délégué général à l'équipement national, qui avait fonction de secrétaire général, donc pratiquement fonction ministérielle. Puis il avait été dans le cabinet d'Arlan de février 1941 jusqu'à avril 1942, ministre secrétaire d'État de la production industrielle. C'est-à-dire, il faut le savoir, ministre d'un des secteurs qui non seulement évidemment ont organisé le pompage, le vidage des ressources de la France au bénéfice de l'économie de guerre du Reich, mais qui a été particulièrement chargé, comme d'autres ministères d'ailleurs, et notamment le ministère des Finances, de l'arianisation de l'économie. C'est-à-dire, bien entendu, d'une arianisation, d'une spoliation des Juifs qui avait cet effet bénéfique supplémentaire que, en évinçant ici ou là le capital juif, on pouvait faire place au capital allemand, je dirais, sans léser les capitaux ariens. Autrement dit, on a là, avec quelqu'un qui est lié à Renault, et je vais revenir à mes biographes, à géographes, on a quelqu'un qui est particulièrement représentatif de ce grand capital, qui, on va le voir, faisait de la politique et même beaucoup de politique et consacrait même, je dirais, l'essentiel de son temps à la politique. Et je le dis parce qu'on ne cesse de nous expliquer que les grands industriels ne font pas de politique. Ça fait d'ailleurs 30 ans que l'historiographie dominante économique fait semblant de le croire, ne fait pas de politique, n'a pour politique que la protection des intérêts des ouvriers, qu'elle ne veut pas mettre au chômage.
Sauver l'emploi.
C'est naturellement pour ça que pendant l'occupation, Renault a développé ses capacités et même ses effectifs, il faut bien le dire, plus que toute l'automobile qui travaillait dans l'ensemble à 100% pour l'Allemagne, sachant que Renault a travaillé mieux que tout le monde, incontestablement mieux que tout le monde.
Juste pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est une hagiographie et en quoi consiste l'activité des différents des comités dont tu nous as parlé tout à l'heure?
Alors, une hagiographie, c'est une présentation idyllique, dithyrambique, très élogieuse, voilà, et uniquement élogieuse, d'accord, comme dit mon voisin.
Hagio veut dire saint, je crois.
Voilà, voilà, c'est une sorte d'histoire des en l'occurrence du patronat, sachant d'ailleurs que Chadeau avait été encore plus hagiographique pour le neveu par alliance, le hideux, que pour l'oncle, parce qu'il avait consenti l'idée que l'oncle tout de même avait cédé à quelques dérives, mais par bonheur, le lieutenant, tellement patriote, tellement remarquable, tellement dynamique, avait arrangé tout ça. Donc ça, c'était en 1998. En 1995, on avait eu une histoire patronale, une histoire d'un ouvrage qui s'appelait « Des patrons sous l'occupation » de deux journalistes économiques, dont l'un d'ailleurs aujourd'hui, si je ne m'abuse, est rédacteur en chef adjoint des Échos, qui nous avait présenté également une histoire tout à fait plaisante des patrons. Alors vous me direz, elle remonte loin celle-ci, on est déjà en 1995, dans les années 1990, l'affaire cheminait. L'affaire cheminait, non pas exclusivement d'ailleurs de la réhabilitation de Renault, mais dirons-nous de la réhabilitation d'un grand capital qui avait été quand même un peu obscurci, taché aux yeux de la population française par le rôle joué sous l'occupation, ce qui est une occasion de répondre à la question de Christine, ça sert à quoi les comités d'organisation? Eh bien voilà, à quoi ça sert? Ça sert à organiser la profession. Alors d'abord, ça vous permet de comprendre que, alors que les syndicats ont été dissous par Vichy, et tout à fait immédiatement, officiellement à l'automne 1940, en novembre 1940, ils sont dissous. Alors d'abord, je vais faire une remarque, ça n'empêche pas de conserver des syndicalistes qui se sont laissés prendre au ras du patronat, qui sont bien utiles, même quand il n'y a plus de syndicats du tout, et à qui on a, enfin, aux responsables, aux dirigeants desquels on a affecté des postes bien agréables quand même sous l'occupation.
Comme Belin.
À commencer par Belin, bien entendu, qui a été ministre. Et puis quand il n'a plus été ministre d'ailleurs, à partir d'avril 1942, on l'a casé comme responsable des allocations familiales quelque part. Il est resté là tranquillement jusqu'à la libération de Paris. Partant un peu précipitamment, se cachant en août 1944, mais enfin tout ça allait très bien. Je ne vais pas, évidemment, on pourrait faire une émission avec les syndicalistes compréhensifs, ceux qui étaient tellement déchaînés contre le noyautage de la CGT par l'ennemi rouge, l'ennemi communiste, et qui avaient trouvé donc des prébends. À quoi servaient les comités d'organisation? Eh bien, ils servaient à organiser donc la profession, sachant que il masquait le maintien des structures patronales restées entièrement intactes, entièrement. Et en ce qui concerne l'automobile, il s'agissait tout simplement d'une des structures de l'automobile qui préexistait l'occupation et qui, depuis, le fondement de l'économie de l'automobile, c'est-à-dire la métallurgie, avec le comité des forges, chapeautait depuis le 19e siècle, depuis le Second Empire, les années 1860, chapeautait l'industrie lourde française et ses diverses branches métallurgiques. Donc, en fait, c'était la même chose. Si vous ne me croyez pas, c'était d'autant plus la même chose que ça avait conservé le même siège. C'était là, c'était, ça avait les sièges patronaux, vous voyez, lui-même était d'un côté, hein, voilà, l'Union des industries métallurgiques et minières, bah eux, ils étaient 4 rue de Presbourg, c'est-à-dire dans les locaux de la CGPE, de la Confédération Générale, du patronat français, dont on sait évidemment le rôle, enfin, dont on imagine le rôle depuis sa création en 1920. Et donc, ces comités d'organisation organisaient la profession, c'est-à-dire se débarrassaient, et c'était très facile sous l'occupation allemande, se débarrassaient des branches mortes, concentraient, organisaient les commandes, sachant qu'une partie très importante des commandes allemandes passait éventuellement en dehors des comités d'organisation, mais organisait entièrement les branches de telle sorte que l'économie de guerre française pût être pût être satisfaite. L'économie française, non, elle ne l'était plus. Et donc, la création de l'office de répartition centrale des matières premières, des produits industriels. J'ai dit 16 août pour le premier décret. Le second décret est de septembre. Donc, en un mois, même pas, en 15 jours, 16 septembre, le second décret, on a donc l'ensemble des matières premières françaises et coloniales qui sont centralisées par les mêmes grands patrons qu'avant-guerre et qui affectent ces matières premières non plus à l'économie française qui n'a plus que des rogatons mais à l'économie du Reich. Mais ça a des avantages considérables puisque dans le même temps s'opère une concentration que l'alourdissement de l'occupation allemande autorise en ce que plus la pénurie est grande, plus la concentration se fait, et par exemple, l'organisation de la pénurie et l'organisation par l'Allemagne de la pénurie, par l'Allemagne, qui se fait et anéantir son blitzkrieg quand elle attaque l'URSS, parce qu'on ne sait pas assez, mais enfin, tous les milieux bien informés savaient en août-septembre 1941 que l'Allemagne allait perdre la guerre. Et à cet effet, qu'était-il nécessaire pour l'Allemagne d'avoir de la main-d'œuvre française? Et pour avoir de la main-d'œuvre française, question qui n'a cessé d'être débattue entre les Français, les grands patrons, les ministres de Vichy et les Allemands, depuis le deuxième semestre 1941, et je ne me trompe pas de date, 1941, les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre française, qu'à cela ne tienne, c'était une excellente occasion de fermer des petites entreprises qui ont été fermées par centaines, par milliers, et sachons-le, au moment où les héritiers Renault viennent nous expliquer qu'il est indispensable, parce qu'il a été fait tort à leur pauvre grand-père calomnié, qu'il est indispensable que le contribuable français consente une indemnisation des actifs de Renault confisqués le 16 janvier 1945, actualisés, c'est-à-dire avec intérêt composé, c'est-à-dire une indemnisation auprès de laquelle l'affaire Tapie relèvera du simple pourboire. Il s'agit de milliards d'euros, vous m'entendez bien, il n'y a pas d'erreur de ma part. C'était la plus grosse entreprise française. De milliards d'euros, au moment où les héritiers Renault justifient des milliards d'euros payables par le contribuable et citoyen de France, ou pas citoyen de France d'ailleurs, habitant de France, éventuellement privé de divers droits. Je parle des étrangers travaillant ici, payant leurs impôts ici, et qui seraient également appelés concourir à l'indemnisation, au moment où ces héritiers, cette fois-ci devant au jour, puisque l'affaire a été préparée pendant de si longues années, nous demande aux contribuables de consentir cet effort. Qu'est-ce qui va être dit des petits patrons qui, par centaines, par milliers, ont dû fermer leurs entreprises? Vous m'entendez bien, car ça figure dans les documents 3W de haute cour du comité d'organisation de l'automobile, dans le fond, le I2, 3W 217 à 234. Et je peux vous dire, il y a du matériau, j'ai travaillé un an dessus. Un an. Eh bien, on s'aperçoit que ces petits entrepreneurs ont eu leurs affaires fermées sans aucune indemnité. Ils n'ont jamais eu d'indemnité depuis. Et les ouvriers, on va peut-être revenir sur ce point, et les ouvriers, victimes, comme d'habitude, de la collaboration permanente entre la police française et les usines Renault. Collaboration policière d'ailleurs assumée au plus haut niveau, non seulement par Louis Renault, l'actionnaire ultra-majoritaire de l'entreprise à plus de 96%, mais par son lieutenant, le I2, parce que chargé spécialement des affaires sociales, des questions sociales, vous savez ce que ça veut dire en bon français? Ça voulait dire chargé quotidiennement des rapports avec la police. Et il y a, à la préfecture de police, dans la série BA 2136, que j'ai entièrement consultée, bien entendu, elle n'est pas très longue celle-là, je n'y ai pas mis un an. Il y a dans cette série de quoi montrer que de 1936 à 1940, sachant que cette série est très lacunaire, de 1936 à 1940, le I2 était chargé du contact quotidien avec la police. Ce contact quotidien avec la police qui visait sans arrêt à alourdir l'exploitation et à empêcher, bien entendu, tous ceux qui s'opposaient à l'exploitation de rester à l'intérieur de Renault. Donc j'entrerai pas dans le détail, évidemment, de la répression. Cette répression, vous n'imaginez pas qu'elle a cessé avec l'occupation allemande. Elle s'est poursuivie. Elle s'est même aggravée de ce que la police française était, avec la police allemande, dans une situation de collaboration que, pour le coup, personne ou presque ne nie. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ouvriers, qui étaient pourchassés, comme le montrent les fonds d'archives, qui étaient pourchassés quotidiennement, car si les usines Renault ont bénéficié, si j'ose dire, ont justifié le terme de bagne. C'était le thème d'un certain nombre de séries d'articles ou de séries d'articles de l'Humanité depuis 1930 notamment. Hein, et il y a une série d'articles, de 13 articles extraordinaires, il faut bien le dire, hein, parce que c'était une source syndicale extraordinaire, bien sûr que le travail de la CGTU, travail clandestin à Renault. 13 articles en 1930, début 1930, puis une série d'articles sur le bagne. Si les usines Renault méritaient le qualificatif de bagne, c'est que c'était un bagne, non seulement d'ailleurs, il faut le dire, par les conditions de répression, mais par la fréquence et la violence des accidents du travail, des accidents mortels du travail. Ceux qui ne me croient pas peuvent aller voir les fonds BA, ils sont ouverts les fonds BA 2135 et 2136 de la préfecture de police.
Même dans le documentaire de France 3, ils en parlent quand même.
Exactement. Alors, cette répression, elle s'est manifestée, bien sûr, pendant la guerre. Elle s'est manifestée de 1940 à 1944. Elle s'est manifestée avec une violence particulière à partir de 1941. Mais même avant, parce que on a les dossiers avant, hein, au moment où les militants communistes, depuis 1939, étaient clandestins et où la chasse aux communistes continuait, puisque c'était les communistes qui représentaient l'opposition dans les usines Renault. Eh bien... À partir de 1941 et de l'entrée massive l'opposition, mais dans le sabotage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les ouvriers dénoncés par les usines Renault. Et si vous ne me croyez pas, il y aura des documents pour le démontrer, puisqu'aussi bien un document de 1941 atteste que la police de Renault-Billancourt, la police municipale de Renault-Billancourt, qui est d'ailleurs une des sources essentielles de notre information sur Renault, qui figure dans les fonds de la préfecture de police. Le commissariat de police détenait, vous m'entendez bien, et c'est affirmé par un document que je diffuserai, parce que celui-là, je crois que je ne l'ai pas encore diffusé. Si, d'ailleurs, je dis une sottise, je l'ai diffusé. Un document de 1941, non, celui-là, je crois que je ne l'ai pas diffusé, qui atteste que la police avait les 20 000 fichiers des ouvriers. Elle y puisait à loisir, elle était entretenue tous les jours par l'information à tous les niveaux, de l'EI2, puis du successeur de l'EI2, que quand l'EI2 a pris des fonctions officielles. Et ces ouvriers, qui ont été pris en fonction de la législation, il faut bien le dire, de la législation d'Aladier, notamment de l'interdiction du Parti communiste du 26 septembre 1939, qui est-ce qui les a dénoncés à la police? Qui est-ce qui les a livrés à la Gestapo? Qui est-ce qui les a livrés au poteau d'exécution ou à la déportation? Qui les a indemnisés? Les héritiers Renault vont oser nous demander des milliards quand des dizaines d'ouvriers de Renault, en 1941, en 1942, en 1943 et jusqu'à la fin, ont été livrés à l'appareil de répression de l'Allemagne nazie. Mais je veux dire, dans quelle France nous trouvons-nous pour que, sans que ça provoque une véritable émeute, des héritiers de gens possesseurs de milliards, des héritiers qui ont été dotés de toute la fortune personnelle de Renault, car Renault n'a été privé que de ses actifs industriels, d'une fortune qui avait été mise bien au chaud, de propriétés foncières qui sont gigantesques, dont les milliers d'hectares d'Erqueville en Normandie, les propriétés de l'île de Gien, les propriétés Bretagne et d'autres propriétés. Ce sont ces gens-là qui osent demander aux contribuables français de payer des milliards. Mais je veux dire, ce n'est même plus de l'audace ou de la licence, c'est de l'obscénité.
sera. Si je te disais ce que je vois venir, Anne Masseran, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne Masseran, en écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne Masseran, tu pensais qu'on oublierait jamais mes mauvaises mémoires. Elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix gamme et bottes à clous, oui, toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes imparties. La voilà revenue, historique, hystérique. Anne Masseran. Si je te disais ce que j'entends, Anne Masseran, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements, Anne Masseran, j'aurais tant voulu te dire, petite fille martyre, Anne Masseran. Tranquille, elle reviendra plus la vermine, mais beaucoup d'indifférence, de patience malvenue pour ces anciens damnés au goût de déjà vu, beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière. Anne Masseran, si je te disais ce que je vois venir, Anne Masseran, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar.
C'était Louis Chédid, Anne Masseran. Vous êtes à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4. Et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales, 01 43 71 89 40.
J'évoque les programmes, les nouveaux programmes, etc.
Vous êtes à l'antenne, les petits.
Donc on reprend. Annie, on a parlé de Robespierre il y a quelque temps. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la question du musée Robespierre à Arras, dans la ville d'Arras?
Bien entendu. Mais je veux dire, moi je ne suis pas, je n'ai aucune compétence autre que celle d'un historien formé, et je remercie l'Alma Mater par l'université quand on disposait d'études correctes d'histoire, c'est-à-dire de ce que j'ai fait quand je préparais les concours et évidemment quand j'ai été formée. Mais je dois dire d'ailleurs que je vois avec plaisir, je l'ai constaté avec mon collègue Serna et ses doctorants, mon collègue Serna qui occupe aujourd'hui le poste de la Révolution française à Paris 1, et ça m'a fait très chaud au cœur, Pierre Serna, des doctorants qui montrent que l'atmosphère générale change, et donc l'atmosphère de traitement de la Révolution. Et on peut tout à fait présager que Robespierre va connaître, comme c'est le cas avec un des doctorants dont j'ai oublié le nom, il me semble qu'il s'appelle Cousin, Alexandre Cousin, mais il ne faudrait pas que je me trompe. Je pense que le personnage de Robespierre va être réhabilité comme les archives permettent qu'il le soit. Et toute initiative en ce sens, et en particulier de collègues ou de citoyens d'Arras qui se battent pour qu'il existe un musée, pour qu'ils disposent de moyens et pour que la population française, comme c'est son droit, ait l'accès à une connaissance normale de ceux qui, pendant la révolution bourgeoise française, voulaient, comme Robespierre et Saint-Just, que triomphe le bonheur, une idée neuve en Europe, eh bien, je suis ravie que ces institutions existent, se battent. J'ai moi-même signé, il n'y a pas longtemps, une pétition voilà,
en faveur, voilà. La mise en place du musée Robespierre dans la ville d'Arras.
Voilà, si tu as d'ailleurs le lien.
Donne-nous les coordonnées, peut-être.
Si tu peux donner les coordonnées, ben, je pense qu'il suffira que les auditeurs aillent tapoter un peu sur le musée d'Arras et Robespierre.
Pétition pour un musée Robespierre dans la ville d'Arras. Donc, il faut taper ça sur un moteur de recherche et on retrouve le texte de la pétition. Oui, effectivement, Robespierre qui n'est pas seulement un criminel digne des fichages ADN.
Absolument, absolument. Mais qui serait fiché ADN aujourd'hui, incontestablement. Voilà, et qui d'ailleurs a été, par la bourgeoisie triomphante qui n'avait plus besoin du soutien, ou plus autant besoin du soutien du peuple contre l'aristocratie, qui, on le sait, a été sacrifié, puisqu'il incarnait quelque chose de plus radical et qui faisait sa place à la population de France.
Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'actualité judiciaire? On peut considérer probablement que l'affaire d'Oradour-sur-Glane est une sorte de coup de sonde de la part de la famille Renault pour légitimer le passé de leur aïeul. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles ont été les décisions qui ont été rendues, tant pour cette affaire que pour l'autre, évidemment, plus importante, mais même si celle d'Oradour-sur-Glane, sur le plan symbolique, est très importante également.
Oui. C'est une victoire juridique immense. C'est une victoire juridique immense, d'autant plus que quand les héritiers ont pensé le moment venu, en juillet 2009, d'attaquer le musée d'Oradour-sur-Glane, dont l'exposition permanente affichait la photographie dont j'ai parlé au début de l'émission, ils se heurtaient à une situation délicate, puisqu'ils avaient attaqué devant le tribunal de grande instance de Limoges, qui les avait renvoyés de manière très impérieuse à leurs chères études, en faisant d'ailleurs observer que s'il y avait une petite erreur chronologique, ça ne portait en aucun cas atteinte à la légende générale et au sens affecté par l'exposition sur la collaboration industrielle, puisqu'aussi bien, il était clair que la photo était de 1938, bon, ou 1939, il était clair que Renault avait fabriqué des chars, et il était clair que c'était notamment pour ça qu'il avait été nationalisé, enfin des chars pour l'Allemagne, bien entendu, et que pour la Wehrmacht, parce que des chars pour la France, il n'en avait pas fabriqué beaucoup, je vais vous dire un mot d'ailleurs là-dessus après.
Et des pièces d'aviation également.
Pardon ?
Et des pièces d'aviation également.
Oh, des pièces d'aviation et bien entendu des camions, parce qu'il faut le rappeler, les camions n'étaient pas faits pour faire du tourisme. C'était les camions 3 tonnes 5 qui avaient constitué l'essentiel des camions du front russe avec, il faut bien le dire, les camions Ford et les camions Opel, c'est-à-dire les camions General Motors de 3 tonnes, eux. Hein, voilà. Donc, ils étaient en position délicate, et alors, il faut bien dire qu'on a eu un déficit d'information qui a beaucoup facilité la chose aux héritiers Renault. Il se trouve que le TGI s'était appuyé comme Centre d'histoire de la mémoire, mais moi je ne le savais pas, sur mes travaux, sur industriels et banquiers sous l'occupation, et avait cité notamment un des documents, je dis bien un des documents, qui précisait que pour le 15 juin 1941, vous m'entendez bien, pour le 15 juin 1941, Renault, comme une série d'entreprises d'ailleurs, devait avoir des chars prêts, et on sait ce que pour ce 15 juin, ce que signifiait ce pour le 15 juin.
Vous étiez une semaine avant le début de l'opération Barbarossa.
Voilà, allait se dérouler le 22 juin. Je signale d'ailleurs à nos auditeurs que le fonds 3W est particulièrement explicite sur le fait que l'industrie française était mobilisée au service du front russe pour le 15 juin, et de manière très nette depuis la fin de 1940 et bien plus encore depuis les premiers mois de 1941. Donc, j'avais servi d'expert historique. Je dirais même que c'est la quintessence de l'expertise historique qui doit être absolument indépendante. Un expert historique, ça n'est pas le beau-frère ou l'obligé de Servier ou le petit-fils par alliance de Renault. C'est quelqu'un qui, indépendamment d'une affaire, a pris position historique via les sources sur une question. Donc j'étais expert historique, mais je ne le savais pas, puisque le TGI avait targué de mes travaux pour dire « allez-vous faire voir », étant donné que oui, le travail historique atteste que Renault a bien fabriqué des chars. Eh bien, discrètement, ils sont allés attaquer le pauvre petit centre, je dis pauvre à tous les sens du terme, le pauvre petit centre, disposant de financements faméliques d'Oradour-sur-Glane, symbolique, comme le disait tout à l'heure mon collègue, et ils y sont retournés donc en 2009, en octobre, fin octobre 2009, le 27 octobre 2009, et dans la plus grande discrétion, malheureusement pour nous, malheureusement pour ce qui est devenu les intervenants volontaires dans la procédure juridique, on va y venir tout à l'heure, nous n'avons pas été informés de cet appel et nous n'avons pas été informés de son résultat, c'est-à-dire la glorieuse décision de la cour d'appel de Limoges qui, en juillet 2010, a décrété qu'ils avaient raison. Que d'ailleurs, une série d'historiens avait établi que Renault n'avait pas fabriqué de chars. Qui c'étaient ces historiens? Eh bien, Chadot. Eh bien, Dingley. Vous voyez, expert indépendant s'il en fut. Un certain Anthony Rhodes, que je connais, qui est un historien, je dirais quasiment de salon, qui use de très peu de sources en général, et qui a fait une biographie de Renault en 1969, qui s'appelle Louis Renault Biography, avec zéro archive. Vous m'entendez bien? D'ailleurs, mes collègues et voisins, collègues ou non, peuvent en juger. Je l'ai apporté, la biographie. Ils regarderont et ils verront qu'il y a zéro source. Et donc, sur cette base, il y avait un quatrième larron, Attri, qui avait fait une thèse qui, elle, avait quelques éléments, mais pas beaucoup, il faut bien le dire, une thèse qui s'appelle Renault, patron absolu. Et alors, une grande chance pour les héritiers Renault, vous n'avez qu'à regarder le site de Dingley, celui-là, qui n'avait pas de source suffisante, avait dit « mais Renault n'a pas fabriqué de char ». Eh bien, la cour d'appel a décrété que puisque ces gens très compétents, alors que moi je ne l'étais pas, bah ma foi, ces gens compétents étaient quand même plus nombreux que moi, et donc 2 000 euros de dédommagement, 2 000 euros quand même, bon, on dirait c'est pas des milliards, tout de même, ce petit centre misérable qui versait 2 000 euros à des héritiers Renault, d'une part, et qui était contraint, sous astreinte de 200 euros par jour, de quoi fermer le centre, de retirer la fameuse photo, qui n'est plus au centre d'Oradour-sur-Glane, mais qui est à peu près sur toutes les ondes, y compris dans la presse allemande, puisque un de mes thésards vient de m'envoyer hier un article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la FAZ, qui parle de l'affaire et qui nous affiche la fameuse photo.
Mais qu'est-ce qui était attaqué? C'était la présence de la photo, commentaire ou les deux?
C'était tout, c'était la photo. C'était, contestant l'avis du tribunal de grande instance, c'était le fait que on laissait entendre que avoir collaboré sous la Troisième République signifiait vraiment quelque chose de choquant de collaborer sous l'occupation. Et comme la légende mettait simplement il a fabriqué des chars et qu'ils avaient démontré par les quatre grandes références dont je viens de parler qu'ils n'avaient pas fabriqué de chars, tout tombait évidemment, il n'a pas fabriqué de chars, donc la légende est fausse, donc il est particulièrement choquant dans un musée. C'était dans les attendus, dans un musée évidemment qui met au premier plan le massacre de Radour-sur-Glane, de laisser entendre qu'il pouvait y avoir le moindre lien entre Louis Renault et le massacre de Radour-sur-Glane. Donc tout ce qui avait été démonté avec, il faut bien le dire, beaucoup de pertinence, même si je considère que les cours de justice n'ont pas à s'occuper d'histoire. Évidemment, on me dira, sauf éventuellement d'expertise indépendante hein, parce qu'elles sont obligées. C'est vrai, quand on a jugé Barbie, il fallait bien recourir à l'histoire.
Mais elles seront amenées à le faire de plus en plus en raison de l'inflation des lois mémorielles, par ailleurs.
Voilà encore un autre aspect. Alors, le problème est que nous ne l'avons pas su. Or que ça a été une victoire extraordinaire pour les héritiers, car les héritiers, sur cette base, disposaient d'une décision de justice qui osait affirmer, sur la base de précédentes décisions de justice qui relevaient de véritables plaisanteries en matière historique, c'est-à-dire par exemple de décisions de justice de 1949, que c'est sûr, Renault n'avait pas fabriqué de char, que Renault n'avait pas collaboré, etc. Pourquoi c'était si décisif ? Parce que, une fois remportée cette victoire décisive et secrète, dont nous n'avons même pas été informés. Alors moi qui étais au centre de l'affaire, puisque je passais pour une rigolote avec, osait dire, la cour d'appel de Limoges, un renseignement unique et non identifié dont on ne pouvait pas tirer grand-chose. Alors je vous prie, qu'est-ce que c'est que le renseignement unique et non identifié ? C'était tout simplement un des très nombreux renseignements dont certains ont été reproduits ou cités dans mon ouvrage « Industriel et banquier sous l'occupation ». Il s'agissait donc d'un des très nombreux renseignements qui attestait que Renault avait été mobilisé au service du Reich. Et pourquoi ils étaient non identifiés ? Je vous le donne en mille. C'était des informations secrètes du BC, transmises au BCRA. C'est ce que Dingli appelle sur son site, ou dans la réponse à Annie Lacroix-Riz, parce que j'ai une rubrique de son site, je suis très honorée, il a fait une réponse à un article que j'ai publié sur le net en février 2011, très peu après que j'ai été informée de l'opération des consorts Renault, qui s'appelait Louis Renault et la fabrication des chars. Et dans sa réponse, Dingli décrète que je ne me suis servi que d'informations de la résistance. Il se moque du monde ? Est-ce qu'il veut nous dire que Renault n'envoyait pas à Londres les renseignements nécessaires pour que ses usines fussent bombardées ? Les renseignements en question sont en effet des renseignements secrets de très diverses origines, manifestement essentiellement des cadres moyens ou supérieurs de Renault, peut-être d'ailleurs des ouvriers, parce que il y a une précision telle dans certaines informations, une précision technique telle dans certaines informations, qu'on peut bien penser qu'un certain nombre d'ouvriers résistants de Renault en ont transmis. Et je vous prie de noter à quel point c'était des informations sans intérêt et fausses. Ce sont précisément ces informations qui ont permis de préciser les cibles des bombardements, qui, il faut bien le dire d'ailleurs, mais on ne va pas rentrer dans ce dossier très polémique, historique, mais très polémique aujourd'hui, qui ont permis de fixer des bombardements alliés, qui n'ont pas pesé très lourdement sur le travail pour l'économie de guerre, ni en France ni ailleurs, puisque les Alliés possédaient des intérêts dans les entreprises qui travaillaient pour le Reich, quelquefois même avaient des intérêts directs dans des entreprises qui étaient partiellement allemandes, enfin bref. On a là du renseignement très notable, très important, et comme mon collègue le dit, Est-ce que ça a une importance sur la procédure? Eh bien entendu, par exemple, quand les consorts Renault ont eu l'audace, en janvier 2011, de tenter de peser sur une exposition de Paris sous l'occupation, réalisée par le Centre d'histoire de la ville de Paris. Louis Renault, l'un d'eux, a envoyé une lettre au responsable de ce centre d'histoire. Cette lettre comportait deux pièces jointes. Tout ceci à l'appui d'un courrier qui disait au centre d'histoire « Vous calomniez notre grand-père et il est parfaitement illicite de calomnier notre grand-père car nous disposons de deux éléments très sûrs. » Le premier était le document de la cour d'appel, c'est-à-dire les conclusions de la cour d'appel. Non, il n'a pas fabriqué de char. Non, il n'a pas collaboré. Le second était ce qui va nous amener à une discussion plus approfondie sur l'actualité ou une présentation plus approfondie de l'actualité juridique, c'est-à-dire ce qui a surgi dès janvier 2011 dans notre paysage médiatique. L'article, le dossier du Monde Magazine du 8 janvier 2011 de Thomas Vider et de Pascal Robert, j'ai oublié le deuxième nom, Pascal Robert Viard, pardon, sur Renault, qui était une présentation quasiment exclusive, et quand je dis quasiment exclusive, j'ai tort de dire quasiment, parce qu'elle était exclusive, qui était une présentation très avantageuse du dossier de Renault, avec le titre « Renault, la justice révise les années noires ». Et donc, Louis Renault, un des petits-fils, se permettait de faire pression sur un centre indépendant qui affichait réalisait une exposition non pas permanente, mais provisoire, et le sommet de retirer tout ce qui concernait Renault. Nous en étions au début de l'affaire, c'est-à-dire au début de ce qui a accompagné, de ce qui a précédé, et je dis accompagné car ça continue à accompagner, la décision de procédure des consorts Renault, puisqu'aussi bien à partir de ce moment, les consorts Renault ont bénéficié d'une couverture médiatique exclusive. Alors je renvoie les lecteurs qui pourront se le procurer au dossier Magazine du Monde, du Monde Magazine du 8 janvier 2011, qui est une présentation littéralement scandaleuse en termes historiques de l'affaire. Je dois dire d'ailleurs intéressante parce que les deux journalistes, soit parce qu'ils n'ont pas osé prétendre que Renault n'était pas un fasciste d'avant-guerre, comme le clament sur tous les tons la petite fille et son mari. Les deux journalistes ont, sur l'avant-guerre, choisi de procéder à une autre réhabilitation, la réhabilitation du colonel de Larocque, c'est-à-dire du chef des Croix de Feu, qui était d'ailleurs un ami privilégié, il faut bien le dire, de Louis Renault, puisque Louis Renault avait, en 1937, à un moment, coupé les fonds à un fasciste d'envergure qui est devenu d'ailleurs un grand agent de renseignement des Allemands sous l'occupation, un certain colonel Guillaume, qui, merci pour lui, est devenu sous l'occupation général Guillaume, qu'il finançait et qui s'était un peu fâché avec le colonel de Larocque. Et comme disait Louis Renault, l'argent, l'affection, l'amitié passe avant les affaires. Il préférait de Larocque et il n'aimait pas que Guillaume critiquât de Larocque. Parce que je rappelle que sur toutes les ondes, la petite fille et son mari répètent que Renault n'a pas du tout été fasciste, comme nous a dit en toute quiétude pendant plus de 8 minutes. Le 14 décembre 2011, la petite fille Renault, Madame Hélène Dingli, il n'a jamais été fasciste avant-guerre. Il a même, vous relèverez la pertinence du propos, il a même combattu les révolutions fascistes. Ah, parce que les fascistes ont fait des révolutions, c'est nouveau, ça vient de sortir. Au moins, nos auditeurs apprendront quelque chose aujourd'hui. Eh bien, Ils ont fait d'une pierre deux coups, les journalistes du Monde. Ils nous ont réhabilité Renault et puis ils nous ont même réhabilité De La Roque. Alors, s'il y a des gens qui veulent être informés sur De La Roque...
On est dans le ton de ce que disait Shadow, qui décrivait Renault comme un vieux brillandiste sentimental.
Oh, comme c'est beau. Oh, comme c'est beau.
Qui met le banal sens commercial au pacifisme sans nuance.
Oh, mon Dieu. Et d'ailleurs, je pense que nos auditeurs, spectateurs de France 3 auront remarqué que pendant la Première Guerre mondiale, Louis Renault avait littéralement accompli une mission qui s'était fixée comme une sorte de mission divine, qui était de sauver la France par ses canons, par ses obus, par ses taxis de la Marne. Or, je le dis quand même pour ceux qui l'ont suivi, qui sachent quand même que les taxis de la Marne, c'est le bobard général qui couvre le fait que, en septembre 1914, il y avait la moitié des divisions allemandes qui étaient immobilisées sur le front russe. Mais comme on prend les Français pour des crétins, on leur fait avaler n'importe quoi quand on leur fait avaler quelque chose, jusqu'au moment d'ailleurs où on ne leur fait plus d'histoire du tout, comme en terminale scientifique, parce qu'on ne voit pas pourquoi les futurs cadres feraient d'histoire, ça les abîmerait beaucoup, il faut bien le dire.
Bon, cette émission du 14 décembre a effectivement choqué beaucoup de monde, donc Claude Mazurik qui a apporté une riposte dans l'Humanité du 23 décembre. Qu'est-ce que vous auriez dit très simplement pour dire ce que les deux historiens, le troisième, si on considère que Dinguier
est
un historien, bon, qu'est-ce que vous auriez dit pour contrer ce qu'ils ont dit, ou plutôt qu'ils n'ont pas dit, parce que finalement...
Ils n'ont rien dit, ils sont venus pour dire...
On a eu très peu d'argumentation historique ce jour-là.
Alors,
qu'est-ce que vous auriez dit concrètement?
On va quand même revenir à la procédure, parce que, tout de même, des mois de réhabilitation... Tout seul, sans historien. Il était gentil, donc on va voir ce qu'on pouvait dire. Il était gentil, il était très bien, il n'a pas collaboré. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. J'étais pas tout seul, non, c'est pas de ma faute. Il a collaboré, bon, mais il n'a pas collaboré. Il a été contraint, il avait des commissaires allemands, etc. Tout ça pendant des mois. Mais je dois dire que rien n'a atteint le niveau de perfection, y compris d'ailleurs dans les larmoiements sur, j'espère bien quand même, que les descendants de Renault, des fusillés, des déportés et des bombardés, tout de même, le 3 mars 42, il y a eu près de 1000 morts, tous ouvriers de chez Renault, hein. J'espère bien qu'ils ont été sensibles aux souffrances terribles dès qu'on sort Renault, tout de même, hein. On n'a jamais si bien fait, il faut bien le dire, bien qu'on ait beaucoup répété, que dans le dossier magazine du Monde, merci pour le journal de référence. Mais dans la suite, attendons-nous tout de même à ce que le pire pleuve, le 9 mai 2011, et ça a été très vite caché par l'affaire DSK qui a occupé toutes les rédactions, le 9 mai 2011, les consorts Renault ont assigné l'État en indemnisation pour voie de fait, la voie de fait étant constituée par l'ordonnance de confiscation du 16 juin 1945. Je signale à tous nos auditeurs qui peuvent se procurer les conclusions de cette assignation. Ils peuvent se la procurer, ils vont bientôt, dans les jours qui viennent d'ailleurs, pouvoir se la procurer sur le site qui va être actif dans 2-3 jours de l'association que nous avons créée, nos avocats, les militants syndicalistes qui m'ont alerté en janvier 2011, Aimé Albeher, Michel Certano, qui est en outre un véritable historien de Renault, Roger Sylvain, qui est venu d'ailleurs sur cette antenne, et toute une série d'amis, militants, anciens militants de Renault. Nous avons fondé une association qui s'appelle Esprit de Résistance, qui a lancé une pétition contre le scandale La réception unilatérale sur le service public des consorts Renault pendant toute l'année 2011 de manière véritablement scandaleuse et qui existe, qui compte parmi les intervenants volontaires contre les consorts Renault dans l'assignation du 9 mai, avec d'une part la Fédération CGT des métaux, évidemment particulièrement intéressée à cette entreprise symbole de la métallurgie et du militantisme syndical de la métallurgie, et avec la FNDIRP, c'est-à-dire la Fédération nationale des déportés internés résistants patriotes, qui a été et demeure la plus importante association de déportés. Nous nous sommes portés comme intervenants volontaires dans cette assignation, dont la première audience de procédure importante a eu lieu le 14 décembre. Le 14 décembre, jour où Europe 1 a interrogé pendant plus de 8 minutes toute seule Madame Dingli, et où le soir, Madame Dingli a été, dans une intervention enregistré des jours avant, peut-être 15 jours avant, Madame Renault Dingli, ou Dingli Renault, son mari Dingli, deux historiens présentés comme des spécialistes de Renault, pour la première fois d'ailleurs opposés au consort Renault et associés. Je dis et associés sans S, puisque il n'est pas, Monsieur Dingli n'est pas consort lui-même. Il est consort, prince consort de la consorte. Et donc,
c'est un ayant droit.
Voilà, c'est un ayant, ce sera forcément un ayant droit, même s'il n'est juridiquement pas ayant droit, il aura droit, il aurait droit. Et donc, pour la première fois, avec une opposition théorique, ils n'ont pas eu d'opposition théorique, puisqu'on leur a opposé des historiens dont l'un clamait depuis un certain temps qu'on ne savait rien sur Renault de particulier. On ne savait pas, figurez-vous, disait-il, avait-il dit sur France Info le 23 novembre, car il avait invité le 23 novembre au jour même où la Fédération CGT des métaux avait fondé sa propre structure de combat contre la réhabilitation. On n'avait pas interrogé qui était, ma foi, quand même le plus compétent, ou il faut le dire, la plus compétente sur la collaboration de Renault. Non, on avait interrogé mon collègue qui est un spécialiste du Renault d'avant-guerre, qui n'a jamais mis le nez dans un dossier de guerre.
Donc il s'agit de Patrick Fridançon.
Il s'agit de Patrick Fridançon, qui clame depuis, je présume que c'est pour ça qu'on l'a recruté pour le 14 décembre, qu'on ne sait pas parce que les archives allemandes ne sont pas ouvertes. Mon collègue Fridançon devrait se renseigner, et si bien renseigné sur l'existence de mes travaux, il devrait lire mes travaux. Car malheureusement, il ne doit pas les lire, ou il doit considérer que leur lecture relève de la fantaisie comme cour d'appel de Limoges. Qu'est-ce que j'aurais dit ?
Juste avant une parenthèse, oui, sur Fridançon, parce que vous notez que en 72, Patrick Fridançon avait une lecture très très différente de ce qu'il voit aujourd'hui. Hein. Vous écrivez dans Industriel et Banquier sous l'occupation qu'il y ait à cette époque, en 72, étroitement l'histoire de la société Renault à celle des luttes sociales, qui se montrait prudent envers la documentation patronale, et qui parlait des puissantes motivations politiques de Renault. Donc on a une évolution en 40 ans qui est très intéressante en ce qui concerne l'historiographie française, en particulier que vous avez développé dans l'histoire contemporaine sous influence. Est-ce que vous pourriez nous dire, avant de développer le dernier point, nous évoquer un peu cette évolution de l'historiographie?
Alors, on va faire une pause, et puis comme ça, Annie elle va pouvoir se retourner, préparer la boire suite. Un coup, et puis comme ça, Lulu va pouvoir aussi faire,
voilà,
ses manips.
L'évolution historiographique.
« N'avez-vous pas de mémoire? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendants de fringués chics présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence. Et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et les slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé du ciel, juste à point pour nous sauver. Comme l'ombre, comme l'image, grisâtre, vieillie par l'âge, la barbarie du passé. Même racisme, même brute, même vertige, même chute, et vous restez muet. N'ont-elles rien qui vous débecte ces publicités infectes qui maculent nos journaux? Est-ce parti, valet des riches, qui se prétend sur ses affiches doux et blanc comme l'agneau? Qui déterre des peurs anciennes pour appeler à la haine sur fond d'Alpes et de drapeau. Tandis que son chef ricane et triomphe et se pavane, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ne voyez-vous pas l'évidence, les provoques et la violence qui montent dans ce pays? Où sans honte, des cyniques, arrivistes politiques s'inclinent ou bien se rallient? Où l'on prépare le lit de l'horreur et de la nuit en se pensant à l'abri. Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris désespérés faudra-t-il lancer ici? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris faut-il lancer, putain, pour vous réveiller?
C'était Michel Buller, année 30. Vous êtes toujours à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales 01 43 71 89 40.
Donc on continue chronique syndicale avec Annie Lacroix. C'est une question sur l'évolution de l'historiographie française, Annie.
Alors il faut bien dire que comme j'ai fait de gros efforts pour trouver deux industriels moins collaborationnistes que les autres, ou un banquier et un industriel moins collaborationniste que les autres, j'ai fait de grands efforts pour montrer que finalement il y avait des propos moins hagiographiques que d'autres. Quand j'ai évoqué Fridançon en 1972, j'ai aussi évoqué évidemment quelques réserves de Fridançon à l'égard de Louis Renault, mais j'ai aussi fait observer que Fridançon avait été un des principaux artisans, sinon l'artisan, de la promotion de Louis Le Hideux, François Le Hideux, au rang d'expert, de sage de l'industrie française, puisque c'est lui qui, dans ce qui fonde sa qualification pour parler de Renault, c'est-à-dire son ouvrage sur les usines Renault, jusqu'en 1939, je dis bien, jusqu'en septembre 1939 et pas au-delà. Un ouvrage d'ailleurs qui devait être prolongé par une étude globale de Renault jusqu'en 1944, qui devait constituer sa thèse d'état et qu'il n'a pas réalisé puisqu'il a porté ses sujets d'intérêt à bien d'autres choses. Il n'a jamais travaillé donc sur cette histoire de l'occupation. Mais dès ce moment-là, il faut bien le dire, je le relisais hier, Fridançon de 1972. Oui. Fridançon était significatif de ce gommage du comportement des élites économiques avant-guerre, puisque lui ne travaillait que sur l'avant-guerre, qui allait triompher dans les années 80 et surtout 90. C'est-à-dire qu'à lire la thèse complète, même si cette thèse comportait, même si cette thèse qui devait être son troisième cycle comportait des allusions aux méthodes de guerre de classe. Si vous lisez l'ouvrage, si je ne m'abuse, c'est à la page 386, il y a une présentation par exemple de 1900, je dis ça parce que je l'ai dit, je viens de le relire, hein, en espérant que je ne me sois pas trompé, parce qu'il est possible que je me sois trompé. Mais il est très possible, il est notable que il présente la grève de 1938 et l'agitation sociale de 1938 d'une manière extrêmement négative. On était donc déjà dans une historiographie avec Fridençon particulièrement adaptée à ce qui allait devenir, ce qui allait triompher ensuite et devenir ce qu'on appelle l'histoire d'entreprise, et qui n'est plus
dont Jacques Marseille s'est fait un des héros.
Voilà, et qui n'est plus l'histoire des entreprises ou l'histoire du patronat ou l'histoire de la classe ouvrière qu'on avait connue dans la période, disons, jusqu'aux années 60-70, à une époque où l'histoire sociale en France reconnaissait ce que n'importe quel Pékin objectif, et ce que les classes dirigeantes reconnaissent avec même beaucoup d'éclat, que l'histoire industrielle est quand même l'histoire de la lutte des classes. Donc on peut considérer que le travail de Fridençon a été un travail essentiel, une étape essentielle dans la voie qui nous mène aujourd'hui à l'histoire d'entreprise et à la réhabilitation, puisqu'on parle de réhabilitation, du témoignage comme instrument historique et du témoignage non contrôlé toujours. Alors, chez Fridençon, il était en partie contrôlé, précisément parce qu'il disposait tout de même d'une documentation honorable en termes d'archives sur les années d'avant-guerre. Mais dans la période suivante des années 80 et 90, on est passé de la promotion du témoignage à la promotion exclusive du témoignage et à la préférence pour le témoignage à la préférence pour le témoignage plutôt qu'au recours aux archives. Et là, on a franchi une autre étape. Et on a franchi une autre étape qui éclate dans les hagiographies dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les hagiographies de Chadeau et plus encore de Dingli. Et donc, le produit, le 14 décembre, c'est le produit de ce que je dénonçais dans l'opuscule de 2004, l'histoire contemporaine sous influence, c'est-à-dire d'une histoire économique qui, financée par des institutions publiques et privées, est aujourd'hui en passe d'avoir totalement réussi cette entreprise, cette histoire d'entreprise qui a gommé toutes les aspérités, c'est-à-dire, il faut le dire, qui a mis au trou l'histoire réelle de la France et qui a fait passer par profits et pertes, qui a voué au trépas l'histoire réelle du patronat français. Or, l'histoire réelle du patronat français en général, et de Louis Renault en particulier, est une histoire dans laquelle la violence des luttes des classes, je dis bien la violence extrême de la lutte des classes, aboutit à la mort éventuelle des ouvriers, à la liquidation des ouvriers, considérés comme non assimilables, qui gênent l'exploitation parce qu'ils luttent contre, et qui, luttant avec efficacité contre l'exploitation, perturbent évidemment cette exploitation, puisqu'ils peuvent gagner à leur vue une partie importante des ouvriers, voire la totalité des ouvriers, ce qui s'est produit pratiquement au printemps de 1936, et disons du printemps de 1936 à l'année 1937. Car à ce moment-là, en effet, le patronat s'est heurté à une classe ouvrière combative, dressant la tête, ce qui n'est pas arrivé, évidemment, heureusement pour le patronat, très longtemps dans l'histoire du XXe siècle, qui s'est reproduit à certains moments, qui circule à bas bruit dans notre histoire française. C'est ce qui fait qu'il peut se dresser plus de 3 millions de gens pour lutter contre ce qu'on appelle de manière scandaleuse la réforme des retraites, et qui n'est qu'une casse des retraites et une réduction des salariés français, une promesse de réduction des salariés français au niveau de misère que connaissaient les salariés avant-guerre privés de retraite. Mais on est donc à un stade avancé, puisque on a un service public de télévision qui, le 14 décembre 2011, dans une période précédée par une offensive médiatique sans précédent de consorts de grands industriels collaborationnistes. Je dis bien collaborationnistes, pas seulement collaborateurs, collaborationnistes, y compris sur le plan politique. Qui se voit opposer donc le 14 décembre deux historiens, dont l'un clame sur un maximum d'ondes que on ne sait rien. Je signale d'ailleurs que le dossier Renault n'avait pas classé Fridançon parmi les spécialistes de Renault. Il avait classé parmi les spécialistes de Renault des gens qui n'en étaient pas. Mais n'empêche, il n'avait pas classé. Il est maintenant spécialiste pour dire qu'il n'y a pas de source.
Je rappelle le titre de son travail, Histoire des usines Renault, naissance de la grande entreprise 1898-1939.
Septembre, hein. Donc, pas après la déclaration de guerre. Et l'autre, qui est d'ailleurs un historien pour lequel j'ai la plus grande estime, j'ai même été membre du jury de son troisième cycle, il n'a pas, je dirais d'ailleurs depuis, c'était dans les années 80, fin des années 80, si je ne m'abuse, quand j'étais professeur au Mirail à Toulouse, il avait fait une belle thèse sur l'épuration des postiers, il est passé après aux instituteurs, et son ouvrage s'appelle Histoire de l'épuration, l'épuration, grands et petits collaborateurs de l'épuration des grands et petits collaborateurs de l'administration française. Pour justifier une telle invitation, il n'a jamais rencontré Renault, ce que personne ne peut lui reprocher, puisqu'il est spécialiste de l'épuration de la petite administration. Car ça s'appelle petits et grands collaborateurs, mais si vous lisez la thèse, ce que j'ai fait, vous vous apercevez qu'il y a un tout petit chapitre sur la haute administration et que la totalité et la quasi-totalité est consacrée à l'affaire. Ça ne le qualifiait pas. C'est-à-dire qu'on est dans une conjoncture où la tutelle des consorts Renault, du patronat, des gens du MEDEF qui ont mandaté un certain Denis Kessler.
Ancien maoïste
des années 1970 et qui lui aussi a préféré les ors du patronat à la rudesse du combat pour la collectivité. Donc, je dis bien, même si quand on est un intellectuel, et un intellectuel pas réduit à la rue, on n'est pas dans une situation de misère. Hein. Même si on est un intellectuel ou un haut fonctionnaire avec un salaire correct, il est clair que la défense de la collectivité est plus lourde à tous égards, y compris en termes de carrière, que le ralliement aux ors du patronat. Et donc, c'est lui qui... mandaté par le MEDEF et un de ses personnages les plus importants puisqu'il était à l'époque, si je ne m'abuse, vice-président a, dans Challenge le 4 octobre 2007 fait observer que ce gouvernement allait se vouer à la liquidation de tout ce qui avait fait le programme et la réalité du Conseil national de la résistance, et, disait-il, pour se faire bien comprendre, à la liquidation de toutes les mesures qui avaient été décidées entre 1944 et 1952. Nos auditeurs savent sans doute ce que signifie 1944, peut-être savent-ils moins, il en est de jeunes parmi eux, ce que signifie 1952. 1952, c'est le retour aux affaires de Pinay, c'est-à-dire d'un des vichistes membres du Conseil national et vichiste consommé, représentatif du patronat collaborateur et par conséquent qui, par ses mesures favorables au patronat dont l'une a quasiment ruiné la France, avec ce fameux emprunt Pinay qui permettait aux grandes fortunes se dispenser de paiement de tous les impôts sur les successions, de tout impôt sur les successions, c'était significatif. Ils étaient enfin revenus. Et que disent les consorts Renault? Les consorts Renault ont le culot de dire que finalement, De Gaulle a mal agi le 16 janvier 1945 parce que, circonvenu par ces infâmes communistes, il a pris de mauvaises mesures. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent en effet que, ça n'est quand même, en pouvoir de personne de le dénier, la résistance active, la résistance très active, a été très largement une résistance communiste. Or, c'est elle qui a fait que le programme du Conseil national de la résistance a été ce qu'il a été, que l'influence de Pierre Villon y a été très forte. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient contre, y compris au sein du Conseil national de la résistance, tous ceux qui étaient contre l'abolition de la tutelle sur la France, je reprends la formule, je la cite maintenant, des féodalités économiques. Car c'était ça le programme du Conseil national de la résistance. Tous ceux qui se battaient pour que les féodalités économiques ne fussent plus les maîtresses de la presse, de l'édition, de l'ensemble des entreprises, des ressources nationales de la France, et en particulier ses ressources énergétiques, une partie de son industrie qui avait été la collaborationniste, qui avait permis la poursuite de l'effort de guerre de l'Allemagne jusqu'en 1945, en l'occurrence en France jusqu'en 1944, puisque... pour l'essentiel jusqu'en 1944, jusqu'à la libération de Paris, sachant évidemment que toute la France n'était pas libérée, mais que on ne pouvait plus centralement, évidemment, œuvrer à l'appareil de guerre allemand en France. Toutes ces féodalités économiques affaiblies, sinon abattues, car elles n'ont pas du tout été affaiblies. Abattu. Ces féodalités économiques, ce que nous avons de correct dans ce qui assure encore le maintien de notre niveau de vie comme salarié, et notamment de notre niveau de vie le salaire indirect, c'est en effet le fruit du combat de la résistance contre les féodalités économiques. Et il est un domaine dans lequel les consorts n'ont pas entièrement tort. C'est vrai que beaucoup, ma foi, ont approché ce que Renault a fait. C'est incontestable. Mais la pression populaire a fait qu'il était impossible de tous les dispenser du châtiment mérité. Et qu'il était impossible de faire autrement. Il était impossible de faire fonctionner les mines de charbon si on avait maintenu officiellement en place les patrons qui avaient épuisé les ouvriers, qui avait épuisé toutes les veines de charbon au bénéfice du Reich et qui avait fourni aux Allemands les listes qui permettaient d'arrêter, vous m'entendez bien, en 1941, d'arrêter les ouvriers nus, demi-nus, comme ça se fait dans la mine, enchaînés et envoyés immédiatement à la prison de Loos à Lille, puis envoyés soit au poteau d'exécution, soit dans les camps d'extermination nazis. C'était impossible. Et donc, il a fallu, en effet, prononcer la réquisition des mines de charbon. Robert Lacoste, élément socialiste qui était du Parti Socialiste, qui était financé par le patronat, qui était au service du patronat avant-guerre, et dont le patronat, qui a fait, lui, le choix des États-Unis, alors que Belin a fait le choix de l'Allemagne, qui a été à nouveau le ministre de l'Industrie, le ministre de la Production Industrielle du patronat jusqu'au début des années 1950, sauf la petite fenêtre qui a été la fenêtre des nationalisations du communiste Marcel Paul, ministre de la Production Industrielle de novembre 1945 à novembre 1946. Eh bien, Robert Lacoste n'a pas pu s'opposer, et il l'aurait bien souhaité, et les archives que j'ai consulté du ministère des Finances sont nettes à cet égard, et bien d'autres archives d'ailleurs, il n'a pas pu s'opposer à la prononciation la réquisition des mines de charbon. Il n'a pas été possible de s'opposer à la confiscation des usines de Renault, car ne pas frapper Renault était impossible à la libération. Et vous voulez me dire, et vous voulez savoir pourquoi? C'est ce que j'aurais pu dire le 14 décembre. Parce que, plus que tous, symboliquement plus que tous, Renault avait plongé dans la collaboration jusqu'au cou. Il était connu avant-guerre pour la violence de sa haine contre les ouvriers. Moreau Giafferi, le grand Moreau Giafferi, le grand avocat de l'avant-guerre, et même encore un peu plus tard, et même jusqu'à l'après-guerre, mais vraiment le ténor de l'avant-guerre, avait été l'avocat des ouvriers de Renault victimes d'une répression féroce lors de la tentative, de grève de novembre, du 24 novembre 1938. Et je dis la tentative de grève parce que la grève n'a même pas duré 7 heures, n'a même pas duré 6 heures, et que Renault, officiellement interpellé par le ministère de l'Air en mai 1939, j'ai le document, je le mettrai bientôt sur mon site, a osé avancer que le retard scandaleux de livraison des avions à l'économie de guerre française était dû à la grève d'avril 1938, j'ai pas le temps d'en parler, d'une grève de quelques jours qui a été achevée par un affaiblissement très fort déjà et qui n'a pas pesé beaucoup, par la grève de novembre 1938. Donc cette dénonciation par Mahmoud Jaferi dit à peu près tout ce que je dis en le résumant dans Le choix de la défaite et dans Dominique à Vichy, c'est-à-dire comment Renault était un soutien de la cagoule, était un soutien des ligues fascistes, faisait régner une atmosphère de terreur dans ses usines. Il avait quand même, au terme d'une grève qui avait duré de 15 heures, j'ai tout le détail, et je l'ai d'ailleurs en document, ils vont bientôt figurer aussi sur mon site. 15 heures, arrêt des machines. 20h30, les ouvriers sont chassés de manière parfaitement illégale des usines. Il ne s'est rien passé sur la voie publique. Je sais parce que j'ai le magnifique document qui montre comment les choses se sont passées. Et le hideux sort d'une sauterie en compagnie du préfet de police Langeron. Et tous deux se mettent face aux ouvriers, accueillis par les forces de la préfecture de police, alors bastonnés dans l'usine, comme l'a raconté Sylvie Schweitzer dans son mémoire de maîtrise. C'est dommage qu'on l'entende pas. Tiens, ma collègue Sylvie Schweitzer, ces temps-ci, pour nous raconter ce qu'était l'atmosphère de Renault avant-guerre. Je ne l'ai pas entendue sur les ondes. Je ne sais pas ce qu'elle a à dire, si elle a envie de le dire, ou si elle est devenue raisonnable. Il semble d'ailleurs qu'elle soit devenue raisonnable. Mais après tout, elle serait peut-être prête à le dire. Responsable, c'est ça, responsable. Comme a dit Baruch, les historiens doivent être responsables. Moi, je suis une irresponsable.
C'est un terme qui est inscrit dans les programmes d'histoire de première sur laquelle...
Voilà, bah maintenant, mes collègues l'ont répété, maintenant, c'est le cas. Sylvie Schweitzer raconte comment il se faisait bastonner. Un coup pour Blum, à coup de matraque, un coup pour Blum, un coup pour Thorez, un coup pour ceci, un coup pour cela. Après quoi, ils arrivaient sur la voie publique, et sur la voie publique, ils étaient accueillis par des voitures. Alors, il y avait des chars autour aussi, parce qu'on avait fait venir les chars, on les fabriquait pas pour les Allemands, mais pour les ouvriers, oui. Et puis, ils ont été accueillis à coups de grenades, à coups de grenades lacrymogènes, à coups également, non, ça c'était à l'intérieur, et à coups de jets d'eau gigantesques. Et ils ont été lockoutés, 3000 ouvriers ne sont pas revenus. Mmh. Et j'ai aux archives de la préfecture de police la liste des arrestations, sans aucun motif d'ailleurs, rébellion. Voilà l'atmosphère de Renault avant-guerre. Voilà ce qu'on aurait pu dire et voilà ce qu'on n'a pas dit et ce que mon collègue Fridançon, avec sa connaissance de l'avant-guerre, pourrait dire. Eh bien, Mahmoud Jaferi l'avait dit avant 1939, ça figure dans l'Humanité, ça figure même dans d'autres journaux. Et si on nous avait laissé la parole, par exemple, l'association Esprit de Résistance avait, alors que j'avais été informé que le débat ne serait pas un débat, et que d'ailleurs il était enregistré pratiquement une semaine avant, l'association a été informée donc on aurait des historiens tout à fait compétents pour venir répondre à l'assaut des consorts Renault. Non, ils n'ont pas été compétents, c'est-à-dire que ils n'ont pas empêché Madame Renault de déclarer que Renaud n'avait pas travaillé pour la Défense nationale. Ah, a-t-elle dit, Renaud a même été cité, je pense qu'ils ont inventé d'ailleurs, à l'ordre de, c'est pas du mérite, elle a utilisé une expression qui n'existe pas, vous allez voir par qui ils ont été cités, parce que c'est assez rigolo, je dirais même que c'est assez farce. Donc il avait beaucoup travaillé, il avait travaillé beaucoup, il a été décoré, je le répète une nouvelle fois, de l'ordre de l'armement. Alors moi je vais vous raconter.
Je sais pas si faut, si c'est glorieux.
Je vais vous raconter.
Pour nous ici Radio Libertaire, non.
C'est vrai, remarque quand tu as les Allemands, quand tu as les armées allemandes en face, il aurait été quand même honnête d'opposer des chars aux chars. Mais bref, on va pas engager ce débat. Alors, ça n'existe pas, mais vous savez ce qui existe. C'est que, en mai 1940, Pétain, qui avait été nommé vice-président du Conseil par Reynaud, après avoir été ambassadeur auprès de Pétain depuis mars 1939, sur investissement de la cagoule, investissement couvert par les autorités républicaines, avait en effet décoré les usines Renault de l'ordre de la nation. Oh, un factieux qui préparait son putsch contre la République, qui répétait à tous ses interlocuteurs depuis fin 1939 ou début 1940 qu'en mai il serait au pouvoir. Dans des circonstances particulières, il était bien informé, dites donc. Oh ben, en effet, c'est une caution que d'avoir été décoré en mai 1940, à la veille du putsch et de la complicité avec les armées d'invasion, de l'ordre de la nation. Qu'en était-il ? Alors d'abord, je recommande aux auditeurs d'aller jeter un œil sur mon site ou bientôt sur le site d'Esprit de Résistance. Ils seront approvisionnés en documents de novembre 1939 jusqu'aux documents relatifs à la mort de Renaud, c'est-à-dire 1944 et même 1945, puisque il y a une extraction du corps pour autopsie. Ils seront tout à fait informés de ce que j'aurais pu dire le 14 décembre sur le fait que Renaud a saboté la défense nationale avant de se mettre au service de l'économie du Reich avec un enthousiasme, une ardeur qui lui ont valu, soutenu par le comité d'organisation de l'automobile. Il paraît qu'il était fâché avec le neveu. Ça ne se voit pas dans la documentation de la haute cour. Vous m'entendez bien. Un pourcentage bénéficiaire exceptionnel de 12% du prix de revient. Alors que, écoutez bien, les pourcentages bénéficiaires des firmes d'automobiles était en fonction de l'accord intervenu le 24 novembre 1941 pour appliquer les pourcentages bénéficiaires. Le document date du 13 janvier 1942. C'est un document allemand, je le dis pour mon collègue Fridançon qui pense que les archives allemandes ne sont pas connues. Eh ben, en tout cas, il y a des documents allemands dans les archives françaises. Pour les petites entreprises, vous ne vous étonnerez pas compte tenu de ce que je vous ai raconté des comités d'organisation. 6% du prix de revient. Pour les moyennes, 8%. Pour les grandes entreprises, 10%. Les copines, Peugeot, Citroën, c'est-à-dire Michelin, hein, puisque c'est Michelin qui possède Citroën depuis 1935. Je vous en passe des meilleurs. Berliet, le cher Berliet. Même Berliet. Pour Renault, entreprise particulièrement importante à activité multiple, c'est un compte rendu allemand de la Réunion. 12% du prix de revient. Et vous savez pourquoi 12%? Ah ben ça tient compte que cette firme possède une fonderie, une force. De plus, Renault fabrique lui-même ses pneumatiques. Ben c'est vrai quoi, les riches, ils méritent d'être encore plus riches, c'est normal, hein. Et puis, à cette occasion, figurez-vous, ces messieurs du COA ont été avisés que le prix pour la Wehrmacht ne doit pas être le même, patati patala. Le COA est d'accord, mais il a fait remarquer, écoutez bien, toutefois, que du fait des livraisons à la Wehrmacht, les ateliers sont susceptibles d'être bombardés par l'aviation ennemie. Et vous m'écoutez, janvier 42, le premier bombardement est du 3 mars 42. Ils sont susceptibles d'être bombardés par l'aviation ennemie et qu'à ce titre, les firmes couraient des risques particuliers. Renault courait des risques particulièrement particuliers, d'où les 12%. Ah bon ? Ah, mais Renault était en effet le phénix des hôtes de ces bois.
On pourrait peut-être dire que tu dises un mot quand même sur les manuels scolaires, ça c'est quand même important, puisque tu as rappelé tout à l'heure ton livre sur l'influence sur l'histoire, mais sur les manuels scolaires, je crois qu'il y a deux personnes ici qui sont particulièrement intéressées.
On va laisser d'ailleurs nos collègues parler des manuels scolaires. Moi, je ne pourrais parler que des manuels du supérieur qui ont connu la même dérive, je parle des manuels, hein, qui ont connu la même dérive depuis des décennies, au point que ces dernières années, je recommandais à mes étudiants de premier cycle de se reporter, bien entendu, accès libre, et je ne vois pas pourquoi je m'y serais opposé. De toute façon, je n'avais aucun moyen de m'y opposer. Accès libre à tous les manuels que je jugeais mauvais, car je les juge tous mauvais, les manuels actuels. Je demandais à mes étudiants de se reporter à l'excellent ouvrage du secondaire qui a accompagné d'ailleurs mes dernières années d'exercice de secondaire. Je dirais même qui a accompagné ma sortie, parce que malheureusement, dans cette période de triomphe patronal et gouvernemental, dans les manuels, le manuel en question a été rayé des cadres. Il s'agit du manuel dirigé par Jacques Bouillon, qui était publié à l'époque chez Attier, l'éditeur, qui était un manuel de Bordas, pardon, je suis sûr de l'éditeur, Bordas, qui avait repris de 1980 à 1983 tout le programme de contemporaine, qui avait un remarquable 1848-1914, qui avait un remarquable 1914-1945, qui avait un remarquable le siècle contemporain de 1945 au début des années 1980, et qui a été l'honneur de l'enseignement secondaire français, qui a été une véritable révolution éditoriale, puisque pour la première fois, c'était un manuel qui comportait autant de documents, de transcriptions, de copies, de documents d'archives originales, que de textes. C'est-à-dire l'honneur de l'université française, au sens où l'enseignement secondaire est évidemment un monument, un élément central de l'université française, puisqu'on sait que ces professeurs sont formés par des concours qui sont décernés par l'université française. Et qu'on ne sait pas assez que ce même enseignement secondaire est largement régi par l'enseignement supérieur, puisque tous les manuels de l'enseignement secondaire sont dirigés par des collègues du supérieur, collègues du supérieur qui soit en tant que tel œuvre, soit préside la session, puisque les manuels sont également rédigés par des collègues du secondaire qui sont soit des certifiés, soit des agrégés de l'université, et ces collègues ont été soumis à une pression ces 20 dernières années qui explique qu'on en soit maintenant à des manuels qui désespèrent les collègues qui ont passé les concours et qui sont encore des collègues compétents. Autrement dit, il faut le dire, que, comme je l'ai dit dans l'histoire contemporaine sous influence, l'université, les universitaires, ou ce que j'appellerais les collègues respectueux des élites, les collègues bien pensants, les collègues qui ont accepté de renier l'indépendance, que leur avait conféré le statut de la fonction publique, le statut Maurice Thorez de novembre 1946. Car c'est grâce à cela que nous avons pu faire une bonne histoire, que nous n'avons pas été, que nous aurions pu ne pas être les victimes des pressions intéressées, que nous aurions pu ne jamais céder aux ors qui font que les manuels de Bouillon ont été remplacés par les manuels de Jacques Marseille, c'est-à-dire d'un universitaire, paix à ses cendres, d'un universitaire qui avait produit des ouvrages tels que « Gagner de l'argent en dormant », ce que je considère comme une tâche sur l'honneur de la fonction publique, tâche contre laquelle ne se sont dressés aucun de mes autres collègues, car il faut le savoir, Jacques Marseille était directeur de collection.
Chez Nathan.
Oui, chez Larousse. Et que ça avait beaucoup plu à mes collègues qui ne pouvaient pas s'imaginer porter le fer contre quelqu'un qui avait érigé la monétarisation de l'histoire au rang d'institution.
Jacques Marseille qui était un fonctionnaire qui a fait son fonds de commerce de la haine anti-fonctionnaire.
Absolument.